premier sur l'info, l'info locale. Il est 7h30, bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal local préparé par la rédaction. Bonjour Alissa.
Bonjour Arnaud et bonjour à tous. L'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, s'est éteint hier en métropole sud et suite de la Covid-19. Chef de l'État en exercice lors de l'adoption du statut d'autonomie de gestion en 1977. Il s'était rendu au Fénois 2 ans plus tard. Nous y reviendrons dans ce journal. Les services de santé et la DGE s'organisent pour tester tous les élèves des archipels scolarisés à Tahiti et Moorea. Objectif, éviter une flambée de l'épidémie dans les îles durant les fêtes. Et puis enfin, au chapitre judiciaire, avec l'affaire des laboratoires d'ICE, 4 ans et 5 ans de prison requis contre les fabricants.
L'ancien président Valéry Giscard d'Estaing est mort à 94 ans.
Une mort des suites de la Covid-19, a-t-on appris le 14 septembre. Valéry Giscard d'Estaing avait déjà été hospitalisé à l'hôpital Georges Pompidou à Paris pour une légère infection au poumon. Mais Valéry Giscard d'Estaing, c'est aussi, bien évidemment, il a marqué la Polynésie. Il s'était rendu d'ailleurs au Fénois en 1979, 2 ans après la mise en place du nouveau statut d'autonomie interne à Tahiti. Le député maire RPR de l'époque, Gaston Flosse, avait rassemblé plus de 2000 personnes pour l'occasion. Le 19 mai 1974, il est élu 20e président de la République avec 50,81% des suffrages, légalisation de l'IVG, du divorce par consentement mutuel, abaissement de la majorité à 18 ans, démantèlement de l'ORTF. Le septennat de Giscard est celui notamment des profondes réformes. En 1981, un nouveau VGE se retrouve face à François Mitterrand, le candidat de la gauche, qui prend sa revanche cette fois sur le duel de 1974. Le 19 mai, Giscard fait donc ses adieux en direct à la télévision. Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur. Au revoir. Une séquence qui sera rentrée dans les annales.
Valéry Giscard d'Estaing était venu en Polynésie. Le regard de l'historien Jean-Marc Regnault.
Le septennat de Valéry Giscard d'Estaing a eu un impact certain sur la Polynésie française et son évolution statutaire. L'ancien président de la République a marqué les esprits en mettant un terme aux essais nucléaires atmosphériques et en ouvrant la voie aux essais souterrains. Je vous propose justement d'écouter Jean-Marc Regnault, historien.
C'est sous son septennat qu'on est passé des essais clairs aériens aux essais souterrains. Dans l'esprit de Giscard, ça permettait de dégonfler un petit peu les critiques en Polynésie et en Océanie. Le coup a été plutôt raté, sauf quand même que les antinucléaires de l'époque, Tahiti, Sanford, se sont assez bien accommodés de cette transformation.
Autre fait notable, rappelle l'historien, Giscard aurait été notamment favorable à l'époque à la départementalisation.
Giscard a rompu la chaîne qui avait duré 7 ans ou 18 ans de refus de toute autonomie de la part du gouvernement central. Georges Pompidou était complètement opposé à toute transformation statutaire. Et puis, finalement, Giscard d'Estaing, qui aurait, lui, préféré la départementalisation, finit par lâcher du lest. Et accorde donc le premier statut d'autonomie qu'on a appelé statut d'autonomie de gestion en 1977.
Une autonomie que le président de la République offrait dans l'espoir d'un soutien justement.
Giscard d'Estaing a très bien compris que s'il savait bien manipuler la classe politique locale, on le soutiendrait. Il faut se rappeler quand même qu'en 1974, c'est Mitterrand qui avait eu la majorité, même parce qu'il était soutenu par Tahiti et Sanford. En 1974, ils avaient dit « Nous, on va voter pour Mitterrand contre les églises qui foutent la trouille aux gens ». L'expression est exacte. Et en 81, ils disent « On va voter Giscard parce qu'il est catholique comme nous ».
Des propos recueillis par Caroline Perdry.
On parle de la Covid-19, les élèves testés avant leur retour dans les îles.
Testés pour éviter une flambée de l'épidémie dans les îles durant les fêtes et pour préserver bien sûr la rentrée de janvier. C'est ce à quoi s'emploient les autorités sanitaires depuis lundi. La campagne massive de tests a débuté justement début de semaine pour les 1200 élèves des îles scolarisées à Tahiti et Moorea. Écoutez Thierry Delmas, le directeur de cabinet de la ministre de l'Éducation.
Un protocole massif, c'est-à-dire qu'on a 3400 élèves qui rentrent dans les îles et il y en a 1200 qui sont issus de Tahiti. Ceux-là ont déjà commencé à être testés. C'est des tournées journalières où l'équipe de la direction de la santé avec l'infirmière conseillère technique de la DG2E qui vont établissement en établissement pour faire les tests en fonction de leur jour de départ. Et on a commencé les tests aussi dans les îles. On commence à Bora, on commence dans un certain nombre d'îles.
Les élèves qui présenteront donc patte blanche pour en regagner leurs îles pour les fêtes de fin d'année. Qui plus est, avec une semaine d'avance, les premiers retours sont en effet programmés pour ce week-end.
On a décidé d'avancer une semaine, mais imaginez-vous vous que les enfants partent le 14, le 15, le 16 et que localement, il est décidé comme rabat une quarantaine de 15 jours, 14 jours ou même de 10 jours. Ça veut dire que les gamins vont rentrer, ils ne vont pas pouvoir passer Noël avec leur famille, ils vont partir 10 jours après. C'est la meilleure manière pour qu'ils reviennent à Tahiti. Qu'ils partent en bonne santé, qu'ils soient accueillis, qu'ils passent des bonnes vacances auprès de leur famille et que les familles nous les renvoient pour continuer la scolarité. Parce que notre bataille, c'est quand même de faire baisser l'absentéisme des élèves.
Concernant maintenant les élèves qui présenteront un test positif, ces derniers seront isolés 7 jours dans l'un des centres prévus par les autorités sanitaires. Ils feront les 7 jours d'isolement et ils seront ensuite retestés avant de pouvoir partir.
Le code de la concurrence expliqué aux petites et moyennes entreprises, l'APC publie son guide.
Un tour d'horizon du droit de la concurrence en Polynésie, définition des pratiques anticoncurrentielles et surtout comment réagir si l'on est victime de telles pratiques. C'est l'objectif de ce fascicule de 52 pages que publie l'autorité polynésienne de la concurrence. L'initiative revient à la nouvelle rapporteure générale de l'APC, Véronique Salinski. Écoutez-la.
Ce guide s'adresse à toutes les entreprises, petites et moyennes, qui n'ont pas les moyens d'aller consulter un avocat chaque fois qu'elles se posent une question. Et donc, c'est un guide simple à lire, que j'espère clair et complet, pour répondre à ce besoin. Il s'agit de tout un aspect préventif, où les entreprises doivent savoir ce qui est possible de faire, parce que la loi n'interdit pas tout. Elle interdit seulement les abus en matière de concurrence, soit par les ententes, soit par les abus de position dominante. Donc il y a chaque fois un petit scénario qui met en évidence les questions que peuvent se poser les entrepreneurs. Ce sont des questions qu'on nous a posées.
Quelques 500 exemplaires papier ont été imprimés, mais le guide est dès à présent en ligne sur le site de l'APC.
7h37, suite et fin de votre journal, deuxième jour de procès pour les fabricants d'ice.
Au terme de moins de deux jours de débat, le procureur de la République a en effet pris ses réquisitions hier après-midi en évoquant un dossier très atypique. Le procureur de la République a rappelé d'abord que le délit de fabrication de produits stupéfiants est puni de 30 années de prison. Il a requis par la suite des peines allant de deux mois à 5 ans de prison ferme. La peine la plus lourde a été requise à l'encontre de celui qui avait monté le premier laboratoire de production d'ice, découvert par les gendarmes. L'audience s'est poursuivie avec les plaidoiries des avocats et le délibéré, lui, sera rendu aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal.